Patricia Paquin.
Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 14 juillet. 14 juillet,
fête
hein, mais c'est...
des Français.
Mais c'est la fête des Français, mais particulièrement de nos Françaises préférées.
Oui,
oui. Oh. Clotilde Seille, oui. qui est avec nous.
Et André.
Et André-Étienne, qui oui. est quelque part sur la planète, qui nous écoute peut-être en France, peut-être ailleurs.
Peut-être dans son dodo.
Ah, votre trio préféré, bien sûr.
Avant celui de la semaine prochaine.
avec Marie Lalonde.
Bonjour.
Et Yvan Deslauriers.
Oui,
ben,
bonjour.
Comme toujours, on vous parle de voyage, de nature, de science. Ben, pas toujours à part égale. Hein. Parfois, on a un peu plus de voyage. Mm-hmm. Parfois, ben, un peu plus de nature et d'autres fois, un peu plus de science.
Oui, parce que
c'est pas
on
mal
est
voyage.
Un peu plus centré voyage.
Parce qu'on est un peu plus été.
Ben, c'est ça, on est en plein été, donc on voyage davantage. Marie. De quoi tu nous parles?
Alors, moi, je vous parle dans un premier temps de la tortue Lutte, une énorme tortue qui fréquente le Saint-Laurent, notre Saint-Laurent.
Lutte, L-U-T-H. Hein?
L-U-T-H,
et
oui.
Et non pas se battre.
Et dans la deuxième partie d'émission, je vous parle de la Gaspésie.
OK.
Et bien. Toi, Michel?
Ah, de mon côté, je vais vous amener visiter les plus belles bibliothèques du monde. Vous allez voir, il y en a réparties un peu partout et ils ont chacun quelque chose de très spécial, très particulier. Mm-hmm. Puis, je vais vous amener voir des ruines mayas, dans le coin de Chichen Itza, peut-être que vous mm-hmm. connaissez. C'est une des ruines qui est la plus connue.
D'accord.
Du côté de Cancun, entre autres choses, pour les voyageurs.
Okay, ça va être une découverte.
Yvan?
Et moi, de mon côté, ben ce soir, la météo annonce du mauvais temps.
Ah oui?
Alors, mon premier article est justement sur c'est quoi un orage et puis qu'est-ce qu'on doit faire et pas faire quand il y a un orage.
Donc, on sera prévenu pour ce soir.
Oui, oui, vous allez être prêts.
Bien.
Pour tous les temps où vous avez eu des orages puis vous ne le saviez pas. Et le deuxième article, je vous amène en Côte-Nord, mais dans un mode de transport un peu différent.
Bien. Ben, restez avec nous, vous allez apprendre plein de choses. Hein? Alors, je viens de visiter les plus belles bibliothèques du monde. C'est Violaine Balivi qui nous en parle dans la presse du 16 mai. D'abord, en France, la bibliothèque Sainte-Geneviève. Cette bibliothèque est classée un monument historique depuis 1992. Ce fut la première construite à Paris en 1851. Donc, c'est sa particularité. Il y a une immense salle de lecture, capacité de 700 places. Et c'est soutenu par une impressionnante structure métallique. Elle est très lumineuse grâce à la présence d'une quarantaine de fenêtres qui sont toutes en hauteur. Je vous amène faire un petit tour au Japon. Le musée Shiba Ryotaro. Shiba Ryotaro, sa collection de livres personnels contenait plus de 20 000 livres, 20 000 titres, et il les a utilisés pour écrire les quelques 500 œuvres de sa carrière prodifique. Ils sont désormais exposés dans un musée, à son nom, bien sûr, qui sont disposés dans des étagères de chêne qui s'élèvent du plancher au plafond, d'une hauteur qui peut atteindre 11 mètres. C'est impressionnant, hein?
Mm-hmm.
Et ça suit, c'est pas toujours droit, ça suit des lignes courbes.
Mm-hmm.
Alors, vous voyez, chacune de ces bibliothèques a une particularité. En Chine, maintenant.
Qu'est-ce qu'elle a de spécial, celle-là?
La bibliothèque de Chine, d'abord, a été construite la bibliothèque de Liu Yuan. Et la particularité a été construite avec un budget modeste, 20 000 $ canadiens.
20 000.
Mais à quelle époque, là?
Ben, je n'ai pas précisément le temps de construction.
Okay.
C'est au nord de Pékin et c'est attiré des félicitations de partout, dans les sacs d'architecture particulièrement. Elle est située à flanc de colline, elle s'intègre parfaitement dans la nature et sa particularité, là, un revêtement de branches d'arbres.
Oh.
Ben, ça, c'est un clin d'œil aux matériaux qui sont utilisés par les villageois pour se réchauffer en hiver.
Oui, 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 oui.
Des murs vitrés qui laissent filtrer la lumière dans des salles de lecture, dont l'intérieur est presque entièrement en bois.
Mm.
J'emmène aux États-Unis. Bibliothèque Stephen Schwarzma. C'est au terme d'une féroce compétition entre architectes de New York que le projet d'un jeune cabinet d'ériger le plus vaste édifice en marbre jamais construit au pays fut lancé en plein cœur de la ville, à New York. Aujourd'hui, on salue la beauté de ce canon du style Beaux-Arts. L'édifice fut rebaptisé en 2008 du nom d'un généreux mécène qui a versé 100 000 $100 millions.
C'est quand même plus encore.
C'est pas mal plus que tantôt,
les plus élevés jamais effectués pour une institution culturelle. Donc, le nom du monsieur, c'est Stephen A. Schwarzman. En Italie, Bibliothèque Angelica, elle est moins spectaculaire, dit-on, que la Bibliothèque du Vatican. Mais elle mérite une attention particulière, non seulement pour son décor splendide, mais aussi parce qu'il s'agit de l'un des plus vieux établissements du genre qui est ouvert au public. Elle a été fondée en 1604 grâce à l'évêque Angelo Rocca. Lui, il était chargé de l'imprimerie du Vatican et il a légué sa précieuse collection de livres anciens à la condition, et ça c'était quelque chose de particulier pour l'époque, à la condition sine qua non qu'il soit accessible à tout le monde, peu importe la classe sociale, ce qui n'était pas le cas jusqu'à cette date-là. Donc, on parle de 1604. Et on y trouve maintenant de précieux manuscrits, dont une collection de plus de 450 cartes géographiques et certaines datent du 16e siècle. Pour des géographes, c'est intéressant. On arrive en Suisse.
En Suisse, là, attends une seconde. Là, ça doit être dans le coffre-fort d'une banque.
Ça serait très particulier. Hein? Ça s'appelle la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Gall. Et c'est l'UNESCO, c'est clair. Non seulement la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Gall en Suisse est l'une des plus anciennes du globe, mais encore, elle possède l'une des plus intéressantes collections de parchemins anciens, dont le seul existant encore à ce jour qui date de l'époque carolingienne. Et là, on parle du 7e au 10e siècle, quand même. Donc, c'est quand même... C'est un intérieur baroque. C'est décrit comme l'un des plus beaux du genre en Europe. Richement décoré. Des fresques au plafond aussi. Et des boiseries vraiment finement travaillées. 170 000 titres dans cette bibliothèque. Aux États-Unis, bibliothèque George Peabody. C'est pour remercier les résidents de Baltimore de leur gentillesse et de leur hospitalité que le très riche homme d'affaires George Peabody fit un don en 1857 de quelque 300 000 $. On est en 1857, donc vous imaginez la valeur. Accessible gratuitement, la bibliothèque George Peabody compte maintenant plus de 300 000 ouvrages. Ce qui est intéressant, c'est principalement des ouvrages datés du 18e et du 19e siècle. Et cette cathédrale du livre, comme on l'appelle, de style néo-grec, s'ouvre sur un vaste atrium bordé de galeries en fer forgé. Donc, vous imaginez, il faut essayer de s'imaginer, hein, parce qu'il y a des photos magnifiques que je ne peux pas vous décrire. Une autre bibliothèque en France, c'est la Bibliothèque nationale de France. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est répartie dans deux quartiers de Paris. Depuis la construction du complexe moderne François Mitterrand. Le pavillon de la rue Richelieu, sur le plan historique, beaucoup plus intéressant. Et la création du fonds d'archives remonte au milieu du 17e siècle, et ça se voulait d'abord un instrument à la gloire de Louis XIV. J'en aurai encore d'autres à vous mentionner. Simplement, un petit rappel, la bibliothèque Sainte-Geneviève, construite en 1851, au Japon, la collection personnelle de Ryotaro, 20 000 titres qu'il avait. En Chine, vous vous rappelez, en Chine, hein, le revêtement fait de branches d'arbres. Très particulier. Et maintenant, aux États-Unis, Bibliothèque Schwarzman, qui était le plus vaste édifice en marbre jamais construit. En Italie, ce que vous avez, c'est des cartes géographiques datant du 19e siècle. 14e et 16e siècle.
Plutôt.
Ah! Je voulais vérifier si vous m'écoutiez bien.
Tout à fait.
Voilà. Et en Suisse, parchemin de l'époque carolingienne. Donc, vous voyez, chacune de ces bibliothèques contient quelque chose de très, très particulier. C'était Violaine Balévy qui nous en parlait dans la presse du 16 mai. En fait,
alors... Je vous parle maintenant de la tortue lutte mystérieuse et menacée. C'est un texte de Marion Spé, publié dans la revue Nature sauvage, été 2015. Elle sillonnait déjà les océans du monde il y a plus de 90 millions d'années. Aujourd'hui encore, elle est à son aise dans les eaux les plus chaudes comme les plus froides de la planète. La tortue lutte, de loin la plus grosse des tortues marines, ne cesse d'intriguer les experts et cette habitante saisonnière du golfe et de l'estuaire du Saint-Laurent est plus que jamais en péril. La taille de la population mondiale de l'espèce a chuté de 60 % depuis le début des années 80 et on estime qu'il existe moins de 35 000 femelles reproductrices. Les adultes ont peu de prédateurs naturels. Leur principal ennemi, en fait, c'est l'être humain. Ce sont surtout les activités de pêche et le fléau que représentent les déchets de plastique dans les eaux du globe qui menacent ces géantes au dos de cuir. Car les préférences alimentaires des luttes représentent un danger. Leur péché mignon, ce sont les méduses, un mets très peu recherché par le reste du règne animal. Les tortues ont la capacité d'en ingérer de 70 à 75 % de leur poids en une journée.
Oh.
Et leur présence dans les eaux du Saint-Laurent est due à leur goût pour ces organismes gélatineux qui y prolifèrent pendant la saison estivale.
Donc, il faut faire un lien entre les méduses et des sacs de plastique?
Tout à fait, oui, tout à fait. Parce que l'apparence des méduses joue des tours à la tortue lutte. Celle-ci confond les sacs de plastique avec elle, si bien qu'elle en ingère, malgré elle, et risque de s'étrangler, de suffoquer ou de voir son système digestif s'obstruer jusqu'à ce qu'elle meure de faim. Le golfe du Saint-Laurent est une zone d'alimentation majeure pour les tortulutes adultes.
Ben, est-ce qu'elles migrent ici pour l'alimentation ou pour la reproduction?
En effet, elles migrent pour la reproduction.
Ah.
Parmi les reptiles, les luttes sont les plus grands migrateurs. Elles sont capables de traverser le bassin océanique d'un côté à l'autre. Les femelles sont les seules à regagner la terre pour y pondre leurs œufs. Cela explique pourquoi la majorité des données acquises sur cette espèce proviennent d'elles, les mâles étant très difficiles à capturer. Elles se dirigent vers les régions chaudes, leurs plages de prédilection se trouvant majoritairement dans les eaux tropicales ou subtropicales. Pendant la saison de ponte, qui dure en moyenne de 70 à 90 jours et très coûteuse en énergie, elles ne se nourrissent pas. Elles comptent sur leurs réserves de graisse accumulées avant, pendant le temps passé en mer, en vue de subvenir à leurs besoins énergétiques. Sur les plages de ponte, les femelles se meuvent avec difficulté, d'un mouvement lent et mécanique. À cause de leurs 400 kg, elles sont à l'évidence bien plus à l'aise dans l'eau. Elles parviennent tout de même à se hisser en haut de la plage, à l'abri des marées, afin d'y établir leur nid. Après avoir balayé leur emplacement, elles creusent un trou avec leur nageoire arrière et y déposent entre 80 et 120 œufs de la grosseur approximative d'une boule de billard et d'environ 90 grammes chacun. Puis elles partent en mer dans les alentours de la plage pendant une dizaine de jours et elles recommencent ce rituel environ 8 fois. Leur taux de fécondité effective est paradoxalement très faible puisqu'on estime à 1 % la proportion d'œufs donnant naissance à des individus en mesure de se reproduire. Les petites tortues émergent seules après 2 mois d'incubation dans une scène qui rappelle celle d'une éruption volcanique. Elles sortent toutes ensemble de leur cachette en se grimpant les unes sur les autres. Une fois cet effort derrière elles, encore leur faut-il accéder à l'eau sans encombre parce que les prédateurs à terre, les chiens, les oiseaux en tête s'en donnent à cœur joie. Pour celles qui parviennent à atteindre l'eau, une longue aventure commence. Leur épopée qui constitue pour les scientifiques, un grand mystère. Où est-ce qu'elles vont pendant les premières années? Combien de temps s'écoule entre leur premier coup de nageoire dans l'océan et le stade adulte? C'est un mystère. C'est pour l'instant impossible de suivre les déplacements des bébés tortues en mer parce qu'on ne peut pas les équiper de balises comme on le fait très bien sur les adultes parce que leur petite taille, leur taux de survie rend cette tâche très, très compliquée.
Ah ouais, elles sont minuscules,
oui.
Hein? Vraiment.
Les tortues adultes sont grandes et grosses. Elles ont une surface corporelle en contact avec le milieu extérieur proportionnellement moins importante qu'un animal plus petit. Ça leur permet de limiter les gains et les pertes de chaleur et de retenir la chaleur qu'elle produit. Sa couleur foncée, l'épaisse couche de graisse qui l'entoure, mais aussi sa capacité à réguler les flux sanguins sont des atouts qui offrent à ces tortues uniques la possibilité de maintenir une température corporelle jusqu'à 18 degrés Celsius supérieure à celle du milieu où elle se trouve. Elle est la tortulute à la tête d'une chaîne alimentaire très, très courte par rapport aux autres vertébrés marins. D'abord, le phytoplancton, ensuite le zooplancton gélatineux, c'est les méduses, et la tortulute. Donc, elle est sous l'influence quasi directe des conditions océaniques. Les changements climatiques et l'intensification des activités humaines affectent notablement les écosystèmes et entraînent un déséquilibre marqué par la présence extrêmement importante de méduses. Alors, c'est un indice de la mauvaise santé des océans. Voilà, c'était un article de Marion Spé, revue Nature sauvage, été 2015.
La Guadeloupe.
Alors, après la tortue lutte, on est allé se baigner avec notre blonde. Et à un moment donné, on voit des gros nuages gris qui s'amènent.
Oh, ça c'est...
Puis là, il faut sortir de l'eau rapidement. Alors, ça m'amène à vous lire l'article « La foudre, ce danger sournois » écrit par Ève Christian dans le blog Science de Ici Radio-Canada le 11 juin. Lorsque s'affrontent deux masses d'air, de violents courants verticaux entraînent l'humidité, les fragments de glace, les grêlons et les gouttelettes d'eau à l'intérieur de nuages qui ont habituellement une grande extension verticale. Ces frottements séparent les charges électriques de la façon suivante. Les particules plus fines chargées d'électricité positive se dirigent vers le sommet et les autres, chargées négativement, vont vers la base. À cause des puissants mouvements verticaux, un déséquilibre s'opère entre la base négative du nuage et le sol qui, lui, est positif. Quand les charges accumulées deviennent trop importantes, et surtout lorsqu'il y a opposition directe entre ces charges, il y a une décharge électrique, un éclair, et un orage éclate. Un éclair entre un nuage et le sol commence par une faible décharge qui est normalement déclenchée au bas du nuage. Ce traceur par bond, c'est ainsi qu'on nomme la décharge, progresse vers le sol en zigzagant, poursuivre la trajectoire offrant la plus basse résistance entre le nuage et la Terre. Le traceur peut se diviser et se ramifier. Derrière lui se trouvera un canal qui, dès que le traceur rencontrera un objet, un arbre, un clocher, un poteau, un toit d'édifice, servira de chemin entre le sol et le nuage, et c'est là que ça commence. Aussitôt, un très fort courant électrique remontera le long du canal ouvert par le traceur. C'est le coup de foudre. Il y a 3 à 5 fois plus d'éclairs entre deux nuages, aussi appelés éclairs de chaleur, qu'entre un nuage et le sol. Ils jaillissent si vite d'un nuage à l'autre qu'ils donnent l'illusion d'un seul éclair. D'ailleurs, vous pouvez devenir un dieu de la foudre et créer votre propre éclair. Il suffit de gonfler deux ballons de baudruche, là, des ballons en fait, et de les frotter ensemble. Il se formera ainsi une petite étincelle, c'est l'éclair.
Et le tonnerre?
Le tonnerre, lui, c'est le sous-produit de la foudre. Voici pourquoi. Quand l'éclair fend le ciel, l'air sur sa trajectoire s'échauffe jusqu'à atteindre 5 fois la température du soleil. Cet échauffement provoque une expansion quasi instantanée de l'air et crée une explosion soudaine et violente, c'est le tonnerre. Ces ondes de choc sont comparables à celles formées par un coup de canon. Lorsque l'éclair est court et droit, les ondes sont perçues comme un seul coup de tonnerre. Mais si le trajet est long et ramifié, on entend alors une succession de grondements. Plus l'orage est loin, plus le tonnerre est perçu comme un grondement, et plus il est rapproché, plus il ressemble à un claquement sec.
Est-ce qu'il y a une façon d'évaluer la distance de la foudre ou du tonnerre?
Oui, ben on nous propose une façon, c'est en comptant le nombre de secondes entre l'éclair et le coup de tonnerre et en divisant le résultat par 3.
Ah.
Par exemple, si 9 secondes séparent l'éclair du tonnerre, alors la foudre est à 3 km de nous. Quelles sont maintenant les meilleures protections contre la foudre? Il n'y a aucun abri qui est sécuritaire à l'extérieur. Ni une tente, ni un véhicule récréatif en fibre de verre, encore moins le dessous d'un arbre, évidemment. Si vous y êtes et qu'aucune maison à charpente métallique permettant au courant de suivre le métal n'est à courte distance, réfugiez-vous dans une auto, ou sinon dans une crevasse, sous une falaise ou dans une grotte. Ça, c'est moins facile à trouver.
Oui.
L'idéal est un édifice équipé d'un paratonnerre. Restez-y 30 minutes après le dernier grondement de tonnerre. Le tiers des blessés par la foudre le sont après la fin d'un orage.
Étonnant, c'est fini, hein, c'est ça.
Il est primordial d'éviter les ondes surélevées et de ne pas s'approcher à moins de 30 mètres d'une clôture en fil de fer. Et de ne pas implorer les dieux du ciel en pointant un bâton de golf au-dessus de la tête en plein milieu d'un terrain dégagé.
Surtout pas.
Il ne faut pas être l'objet le plus élevé des environs. Si l'orage arrive et que vous êtes sur un plan d'eau, décollez, il faut en sortir subito presto. Méfiez-vous en terrain montagneux, le vent qui souffle souvent assez fort peut modifier le son du tonnerre et vous leurrer sur la distance de l'orage. à l'intérieur, écoutez bien ça, les amis, évitez d'utiliser un téléphone relié à une ligne terrestre, car la foudre voyage par les fils et les cordons électriques. C'est aussi un bon moment pour s'esquiver de laver la vaisselle ou de prendre un bain, l'eau étant conductrice d'électricité. Maintenant, quelques mythes à détruire. La foudre peut s'abattre plus d'une fois au même endroit. Ça ne sert à rien de se placer à un endroit où elle a déjà frappé, car chaque événement est indépendant du précédent. À preuve, l'Empire State Building à New York a déjà été frappé 15 fois en 15 minutes. La foudre peut traverser la brique. Oh. Alors, si vous décidez de fermer les portes et les fenêtres, c'est pour empêcher la pluie de rentrer, c'est pas pour empêcher la foudre de frapper.
Ça m'étonne, oui.
Ouais.
Il n'y a aucun danger à porter secours à une victime de la foudre. Elle n'est pas conductrice d'électricité. Mm-hmm. Et comme un orage est toujours électrique, il est redondant de dire oui, orage électrique.
Ouais,
alors, c'était l'article « La foudre, ce danger sournois » écrit par Eve Christian dans le blog Science de Ici Radio-Canada le 11 juin. Alors, faites attention ce soir, il est censé en avoir un orage. Alors, j'ai le temps pour vous raconter une petite histoire qui est reliée aux orages. En terminant, une petite histoire qui se trouve dans le livre Guinness des records. Roy Sullivan a été frappé par la foudre 7 fois entre 1942 et 1977. Il aurait dû aller s'acheter un billet de loterie, lui. Surnommé le paratonnerre de Virginie, c'est un surnom qu'on ne veut pas avoir, on dit que les gens craignaient de se promener avec lui. Ben, la première fois, il a perdu un orteil, puis frappé 5 fois entre 69 et 75. Ses sourcils et ses cheveux ont été calcinés. Il a été brûlé à l'épaule gauche, à la jambe et à une cheville. Son dernier coup de foudre lui a causé des blessures à la poitrine et à l'abdomen. Il aurait dû avoir un coup de foudre avec quelqu'un plutôt
que... Oui, c'est ça, exactement.
Il est finalement décédé en 1983, mais pas par la foudre.
Étonnant comme histoire.
Alors, une petite caractéristique supplémentaire au propos de la tortue lutte. Seule espèce de tortue marine à ne pas avoir de carapace faite d'écailles, elle est plutôt dotée d'une dossière formée d'une mosaïque de petites plaques osseuses articulées entre elles, surmontée d'une épaisse couche de graisse et recouverte d'une peau à l'aspect de cuir. Son nom en français vient de lutte, l'instrument de musique, la dossière de la tortue garnie de carènes, rappelant la caisse de cet instrument. Alors, revenez-nous après la pause.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, le Tour de France a commencé ce week-end.
Oui.
Alors, je vous amène sur le mont Ventoux. C'est un mont mythique. Dans
oui,
le Tour
absolument.
De France.
C'est... Oui. Alors, chaque année, je pense qu'on le fait. Hein?
Peut-être, presque.
Presque.
Ça dépend des circuits qui sont choisis.
Oui.
Alors, je vous parle du Mont Ventoux, le Ventoux de Gravel. Et de quel Gravel je vous parle? C'est un récit qui est présenté par Alain Gravel.
Ah, ça devrait être une enquête, probablement.
Peut-être. Dans le magazine Vélomag d'avril 2015. Alors, maintenant, je deviens Alain Gravel.
Ah.
C'est en faisant du spinning que j'ai découvert le Mont Ventoux. En fait, en voyant sur l'écran géant placé devant nous la fameuse ascension du Ventoux par Lance Armstrong accompagné de Marco Pantani en 2000. En regardant ces images, je me promettais d'aller moi aussi un jour grimper le Ventoux. Située près de la ville de Carpentras, la montagne s'impose d'elle-même. Elle trône seule au milieu de paysages naturels spectaculaires. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le géant de Provence. Le Ventoux est unique par le défi qu'il offre à qui veut dompter ses 21 km d'ascension sans un seul mètre de répit. Le pourcentage moyen de déclivité est d'environ 7,5 avec de longues sections à plus de 10 %.
Ce qui est considérable.
Le pourcentage de déclivité, c'est quoi ça?
Bien, par exemple, sur une pente de 10 % de déclivité, ça correspond à une élévation de 10 mètres sur une distance horizontale de 100 mètres.
Ah, OK.
Donc, plus le chiffre de pourcentage est élevé, plus l'effort pour grimper la côte est important.
C'est important.
OK? La première partie de la montée se passe dans une forêt dense de chênes où on a peine à respirer lorsqu'il fait chaud. La deuxième est dénudée et couverte de pierres. Quand le vent se lève, on gèle, sinon on crève de chaleur, les pierres chauffant la montagne comme un feu de foyer. Me voilà donc à Bédouin, au pied du Ventoux, pour ma première ascension. J'étais alors en tournage pour un reportage de l'émission Enjeu intitulé « Mourir du sport ». C'est qu'il y a des histoires à glaner sur les pentes du géant de Provence. D'entrée de jeu, le proprio de la boutique de Carpentras, qui me loue un vélo pas tout à fait récent, me met au défi. Si vous réussissez votre ascension, vous aurez droit à un maillot. Mon équipe va me filmer jusqu'au dernier kilomètre, histoire de faire découvrir aux téléspectateurs le cénotaphe à la mémoire du champion du monde Tom Simpson, qui est mort au sommet de la montagne lors du Tour de France de 1967 après avoir pris des amphétamines et bu du cognac. Drôle de mélange. Tristement, cette mort contribue à alimenter la légende du Mont Ventoux. Il y a trois villages de départ pour grimper la montagne, la montée la plus difficile étant par Bédouin. Donc, pas question pour moi de partir d'ailleurs. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Nous sommes fin avril, en bas, il fait beau et les terrasses sont pleines de touristes. Il fait 15 degrés, un temps parfait pour le défi que je me fixe. En oubliant que tout peut arriver sur le Ventoux. À vrai dire, je me fous un peu du tournage de la séquence au cénotaphe de Simpson. Tout ce qui m'intéresse cette journée-là, c'est de grimper, me battre, souffrir et arriver en haut avec le sentiment du devoir accompli. Au début, la pente est douce, mais assez rapidement, en entrant dans la forêt, de premiers gros pourcentages de 9 et 10 % me font peiner. En arrivant à mi-chemin, la frontière entre la forêt et la partie découverte de la montagne, une barrière nous bloque le passage. On vient de fermer la montagne puisqu'on craint de fortes rafales et de froides précipitations. Qu'à cela ne tienne, nous contournons l'obstacle et y allons quand même. Pluie froide, grêle, brouillard et vent glacial, le cocktail idéal pour la leçon de modestie qu'offre le Mont Ventoux à un baveux comme moi. Et en plus, l'inclinaison devient de plus en plus prononcée. C'est là qu'on comprend pourquoi les spectateurs qui suivent le Tour de France réussissent lors de certaines grandes ascensions à courir aussi vite que les cyclistes en les accompagnant. Après 1h40 d'effort, j'arrive finalement en haut des 1912 mètres d'altitude de la montagne, épuisé et frigorifié, mais heureux comme un roi. Je garderai aussi comme souvenir de cette journée la descente folle du Ventoux, pendant laquelle je me suis trompé de chemin, me perdant alors que j'avais laissé mon portefeuille dans la camionnette de tournage. Pendant quelques heures, j'ai roulé seul, sans argent, sans eau ni nourriture, parcourant les paysages magnifiques des gorges de la Nesque, situé en bas de la montagne. C'était tellement beau que j'avais oublié qu'il fallait que je remette mon vélo de location.
Oui, mais tu as mentionné tout à l'heure que le proprio de la boutique lui avait promis un maillot aussi.
Effectivement.
Qu'est-ce qui est arrivé?
Alors, j'ai finalement retrouvé mon chemin. Je suis arrivé en fin d'après-midi à Carpentras, juste à temps pour rendre le vélo et me faire remettre le maillot promis par le propriétaire de la boutique. Moyennant 80 euros.
Oh, c'est gentil, ça. C'est un beau cadeau.
Décidément, les pièges à touristes sont partout.
Oui, oui, oui.
Le Mont Ventoux m'a tellement fasciné que j'y suis retourné à deux reprises en vacances. Je garde surtout un souvenir impérissable d'une rencontre, cette fois en partant du village de Malocène. J'arrive dans les gros pourcentages vers le sommet et j'aperçois soudain derrière moi, au loin, un petit vieux, ceux qui me connaissent, ils sauraient que c'est un pépère, en tout cas, dans la soixantaine qui monte dans ma direction. Les gens qui me connaissent savent que je suis plus orgueilleux que bon grimpeur et que je suis prêt à agoniser pour ne pas me laisser dépasser. J'augmente donc ma cadence. Rien à faire, il approche dangereusement. J'augmente le rythme, lui aussi, et il finit par me coiffer. Il ne m'aura pas, je me cale dans sa roue. Il reste 5 kilomètres, il finira bien par faiblir. Je roule ainsi pendant environ 1 kilomètre. Puis, sans avertissement, il se retourne. Me fusille du regard à la façon dont jadis Armstrong le faisait avec ses adversaires. J'entends soudain un clic et un autre. « Non, c'est pas vrai !» Il ajoute 2 braquets. Ensuite, il se lève sur ses pédales et me donne le coup de grâce. Dans les minutes suivantes, je le vois s'éloigner et disparaître. J'arrive finalement en haut, au bout de mes ressources. Qui aperçois-je appuyé sur son vélo au milieu des touristes? Mon petit vieux qui me salue en me narguant de son plus beau sourire. Chaque personne qui a grimpé le Mont Ventoux a une histoire à raconter. C'est pourquoi on y revient toujours, en espérant qu'on n'y rencontrera pas un petit vieux toujours prêt à vous faire la leçon.
Tu mentionnais la déclivité de 9 à 10 %.
Oui.
Hier, au Tour de France, sur une courte distance, il y a eu une déclivité de 19.
19. Hey. Alors, ça, je peux à peine imaginer ça. C'est un mur, ça, qu'on appelle ça.
Oui, c'est ça. C'était ça, le mur.
C'était des extraits de l'article « Ventoux de Gravel » paru dans Vélomag d'avril 2015. Bon Tour de France.
Vivre avec le clair-obscur islandais, c'est un texte de Monique Durand qui est collaboratrice au Devoir, publié le 4 juillet dernier. C'est le deuxième texte de la série d'articles Éclats de lumière sur divers états de la lumière ici et ailleurs dans le monde. Monique Durand s'est rendue en Islande dans le contexte d'un colloque sur les métamorphoses de la noirceur au nord qui s'est tenu en février dernier. Une formidable tempête de vent et de neige nous accueille à Reykjavik. Il fait déjà sombre, même si l'après-midi est à peine entamé. L'ouverture du colloque a lieu le lendemain. 70 universitaires et artistes venus des quatre coins de l'hémisphère septentrional du globe, dont plusieurs du Québec, sont conviés à s'exprimer à l'Université d'Islande sur les métamorphoses de la noirceur au nord. L'Islande, dont le destin s'est forgé dans l'éternelle lumière de ses étés et l'obscurité presque permanente de ses hivers. Perdue dans l'Atlantique Nord, accrochée par les cheveux au cercle polaire arctique, l'Islande, Iceland, porte bien son nom. Contrée de glace, le dixième de sa surface est un glacier, mais aussi de feu. Les Islandais, ils sont 320 000, dont 20 000 concentrés dans la capitale.
200 000.
Oh, pardon, 200 000, merci. Oui, merci de me surveiller. 200 000 concentrés dans la capitale marchent littéralement sur les volcans, souvent encore actifs.
Oui, il y en a un qui a eu une éruption importante, si je ne m'abuse, hein, il y a
oui,
quelques années.
On en a entendu parler, effectivement. Ah, oui. Souvenons-nous de l'Eyjafjöll, ça c'est le nom court,
oui,
la version courte,
oui, c'est ça.
Qui avait recouvert l'Europe de ses cendres en 2010, clouant les avions au sol. Même l'eau qu'ils boivent au robinet goûte les volcans. Terre à nul autre pareil, lunaire littéralement. C'est là que la NASA a choisi d'entraîner ses astronautes. Les arbres ont été fauchés par les premiers habitants il y a 10 siècles et n'ont jamais repoussé. Élaborés par les tempêtes, dans la convulsion toujours menaçante de son sous-sol et les mystères jamais véritablement expliqués de ces ciels transportés d'émeraudes et de jade, vastes transhumances célestes appelées aurore boréale. Faut-il s'étonner que cet isolat islandais, enveloppé de perpétuels clairs obscurs, sauf en juin et juillet, soit traversé d'histoires fantasmagoriques et de contes morbides et ait donné naissance à une littérature nimbée de mélancolie, où les fantômes, sorciers et trolls, mais aussi les poètes, ont la cote. On en a dit, au début du 20e siècle, « Si vous n'êtes pas un peu poète, vous ne pourrez pas survivre en cet endroit de la Terre. » Faut-il s'étonner aussi que cette contrée étrange ait été peuplée par des Vikings aux rites tout aussi étranges, qui brûlaient leurs morts dans des bateaux-tombes, en compagnie d'un aimé, bien vivant celui-là? Ces Vikings, grands navigateurs, auraient par ailleurs inventé une pierre de soleil polarisant la lumière pour s'orienter et naviguer la nuit. Île unique qui a forgé un peuple unique et qui y tient, où l'annuaire téléphonique est classé par prénom, où existe un alphabet distinct et une langue distincte que l'on soigne et entretient. Avec les maths, elle compose 35 % du cursus des étudiants. Colonisée par la Suède puis le Danemark, devenue indépendante en 1949, convertie au christianisme en l'an 1000, l'Islande est aujourd'hui un pays parmi les plus éduqués et riches de l'OCDE, avec une espérance de vie record. Elle s'est étonnamment bien tirée de la crise de 2008 qui l'avait pratiquement mise en faillite et devient la coqueluche des touristes. L'Islande, dont le destin s'est forgé dans l'éternelle lumière de ses étés et l'obscurité presque permanente de ces hivers.
Est-ce qu'on mentionne dans l'article des effets physiologiques qui sont dus justement au manque de lumière?
Ah oui, en effet. L'auteur apporte qu'on se sent plus malade la nuit, la douleur inflammatoire est plus importante. On meurt davantage dans la pénombre de l'aube, avance la revue Science et Avenir, en raison d'une protéine dont la sécrétion est liée à l'horloge biologique. Enfin, le travail de nuit est considéré comme une source de pénibilité et fait l'objet dans plusieurs pays d'une législation particulière. Pour nous, humains diurnes qui vivons dans la lumière du jour, la tombée de la nuit apporte étrangeté, même à ce qui nous est le plus familier, dit une spécialiste d'Édimbourg. Plus rien n'est solide, difficile de juger de la distance et de la profondeur. Les détails sont obscurcis, les couleurs altérées. Nous voilà obligés de nous servir d'autres sens pour apprivoiser l'environnement. L'ouïe, l'odorat, le toucher. Les bouddhistes voient dans la noirceur une autre forme de connaissance du monde. Le colloque a pris fin, la tempête aussi. Louer une petite voiture pour aller voir la contrée islandaise au-delà de sa capitale avant qu'il fasse noir. Pas besoin de rouler longtemps pour saisir un peu du mythe de ce pays hors du monde. Jamais vu pareille lumière rose en plein jour et pareille lumière rouge au couchant. Revue en un éclair une inscription sur les chariots à bagages de l'aéroport. Vous êtes ici au plus pur de la terre.
C'est joli.
C'est joli. C'était un texte de Monique Durand, collaboratrice au Devoir, publié le 4 juillet dernier.
Bravo.
Oui, vous avez compris que c'était les Beatles, hein? Vous l'avez reconnu, j'espère.
Ah, c'est eux.
Sinon, Here comes the sun. Voilà.
Restez dans la lumière.
Vous vous rappelez, j'espère, si vous avez été avec nous, que je vous ai parlé du canal de Panama, qui avait, un petit résumé rapidement, qui avait débuté en 1880 avec Ferdinand de Lesseps. Et qui était censé terminer en 1888. Maladie, 25 000 morts, vous vous rappelez, et puis de la fraude et tout ça. Ça a été repris par les Américains et terminé, en fait, 26 ans plus tard, oui, en 1914. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est la reprise d'un chantier historique. C'est Emmanuel Monnier qui nous en parle dans Science et vie. Alors, des portes métalliques colossales. Faites juste imaginer. 10 mètres d'épaisseur, 58 mètres de long, 30 mètres de haut. Ben, c'est la démesure. Ça vous donne une idée de ce qu'on est en train de construire au canal de Panama actuellement. 3000 tonnes. C'est absolument des chiffres extraordinaires. Alors, construite il y a un siècle, les écluses actuelles ont des dimensions quand même plus que respectables. Hein? 305 mètres de long, 33 mètres de large. Elles auraient pu accueillir le Titanic. Je parle de la version actuelle.
Oui, si c'était rendu.
Les plus gros navires qui les empruntent aujourd'hui sont des poids lourds qui transportent jusqu'à 5000 conteneurs. Et ça, c'est la version de Ferdinand de Lesseps, si on veut. Alors, vous avez, par exemple, ils peuvent relier New York à San Francisco en 9500 kilomètres au lieu de 22 500 kilomètres si vous faites la route maritime qui longe toute l'Amérique du Sud et qui contourne le Cap Horn.
Oui, oui, qui n'est pas un cap facile.
Non, pas facile, et puis c'est une économie de temps et d'argent considérable. Hein. Vous savez qu'il y a 12 000 à 14 000 navires qui empruntent chaque année le canal. Donc, c'est un gain de temps absolument précieux.
Mais 12 000 à 14 000 en 365 jours, c'est, oui, des navires, oui, ça?
Et combien ça coûte pour un bateau?
C'est quand même des coûts très importants. Un gros navire actuellement, un navire de croisière, disons, 150 000 $ que ça coûte pour la traversée. C'est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par année. Et en un siècle, on a fermé ses portes que deux fois. Ça n'a rien à voir avec la guerre. La première en 1915, à cause d'un glissement de terrain. La seconde a été fermée pendant 6 heures seulement en 1989, quand les troupes américaines ont renversé le dictateur Noriega. Alors aujourd'hui, ben, elle est victime de son succès, puis elle accumule les embouteillages. Hein. Et il n'est pas rare de voir des navires qui patientent près d'une journée en attendant d'avoir le passage libre. Mmh. Car pour limiter les coûts d'un transport maritime qui s'accroît d'année en année, on le sait, les armateurs affrètent des navires de plus en plus gros, que ce soit pour les conteneurs ou pour les navires de passagers. Alors, de tels mastodontes sont trop imposants pour frayer dans le canal actuel. Mmh. Alors, le risque est grand de voir une partie de plus en plus grande du trafic maritime lui échapper au profit de routes concurrentes, qui passe soit par le Cap Horn, parce que ça se fait encore, à la pointe du continent, ou par le canal de Suez, oui, entre l'Asie et l'Europe. Et il y aura d'autres routes dont je vous parlais ultérieurement. Alors, le président du Panama a officiellement proposé en 2006, par référendum, c'est de la mode des référendums,
oui, les référendums, hein?
il a proposé de doubler la capacité. C'est un projet qui a été approuvé par les citoyens.
Okay. OK. Mais maintenant, comment on fait ça, d'élargir un canal?
C'est titanesque. On a ajouté deux voies navigables, une troisième, beaucoup plus large, dotée à chaque extrémité d'écluses monumentales. J'ai mentionné un petit peu au début, là, qu'est-ce que ça voulait dire. Et aussi en engrandissant et en creusant pour faire monter son niveau d'eau, le déjà gigantesque lac artificiel qui est le lac Gatun. Alors, aujourd'hui, les proportions, je vous les épargne parce que c'est considérable. Mais au lieu de 5 000 conteneurs, on peut avoir des navires avec 13 000 à 14 000 conteneurs.
Alors, c'est énorme.
C'est énorme. Officiellement démarré en septembre 2007, le chantier aurait dû s'achever en 2014, juste à temps pour la grande célébration des 100 ans. Mais, on en a parlé pour toutes sortes de constructions actuellement, mm-hmm, et c'est le cas ici, d'ailleurs. C'est comme bien souvent, sur ces projets pharaoniques, il y a des querelles d'argent qui retardent les travaux. Mais l'inauguration est attendue maintenant en 2016. Et
c'est pas
les
si mal.
Ingénieurs, maintenant, doivent respecter un impératif que n'avaient pas leurs homologues à l'époque, il y a un siècle. Le trafic doit impérativement continuer pendant des travaux et il reste prioritaire, car le canal ne peut se permettre de fermer ne serait-ce qu'un seul jour, parce que ce sont les droits de passage qui financent le chantier actuel, qui est achevé apparemment à plus de 75%. Autre obligation, faire vite, car le train presse. Et vous savez pourquoi? Le canal de Suez, qui a déjà agrandi sa voie d'eau en 2010, devrait à nouveau être élargi. Donc, c'est un concurrent important. Mm-hmm. Et le canal est capable d'accueillir les plus gros porte-conteneurs. Ça convient de plus en plus d'armateurs de changer de route à ce moment-là. Les travaux ne sont pas encore achevés que se profile à l'ombre d'un nouveau rival. Je vous en ai parlé rapidement. C'est le président du Nicaragua a confirmé en janvier 2014 le creusement dans son pays d'un nouveau canal interocéanique de 278 kilomètres, mais qui va encore raccourcir la route, si vous avez en tête la carte du monde de Nicaragua.
La compétition est forte.
Donc, vous avez le canal de Suez, le canal du Nicaragua, et pendant ce temps-là, on élargit le canal à des coûts astronomiques. A raison qu'à espérer pour le Panama que cette nouvelle donne ne réduise pas à néant l'intérêt de l'élargissement de son propre canal. Alors, c'était Emmanuel Monnier qui nous parlait de ce projet pharaonique dans Science et Ville et Vie hors série, décembre 2014.
Ah, je me réveille à peine. La belle ouvre sa blanche corolle au matin pour nous livrer ses effluves, mais la referme effrontément au beau mi-temps de l'après-midi. Sur les eaux de l'étang ou du lac peu profond, c'est le jardin japonais. Le nymphéa odorant prend ses aises, laissant flotter ses épaisses feuilles rondes et cireuses d'un beau vert profond sur le dessus, pourpre sur le dessous. Les grandes fleurs immaculées, jusqu'à 20 cm, volent carrément la vedette en juillet et en août, en prime, les jeunes pousses et les pétales se laissent déguster.
Oh! Vous savez que les piles solaires, c'est une technologie qui fonctionne, mais il faut les installer quelque part.
Ah oui.
Souvent, on voit ça sur les toits de maison.
Oui, tout à fait.
Il faut les installer quelque part pour que ça fonctionne. Alors, depuis novembre, les cyclistes de la banlieue d'Amsterdam roulent sur la première piste cyclable solaire au monde. Oui, solaire. Les cellules photovoltaïques sont incrustées sous des panneaux de verre antidérapants qui sont eux-mêmes intégrés à la structure du béton de la piste située dans la ville de Kromeny. L'infrastructure est conçue pour résister au passage quotidien de milliers de cyclistes et aux intempéries. La technologie s'appelle Solar Road. Elle produit 70 % de l'électricité fournie par des panneaux solaires conventionnels. Le fabricant, qui commercialise des technologies conçues dans des universités néerlandaises, a installé des dizaines de panneaux sur une portion test de 70 mètres qui permettra de produire assez de courant pour fournir 2 à 3 maisons pendant un an. L'étape suivante, convertir le réseau routier qui compte plus de 140 000 km aux Pays-Bas.
Un peu de tourisme? Cuba a accueilli en 2014 un record de 3 millions de touristes. C'est la troisième source de revenus pour l'île des Caraïbes qui espère une amélioration de ses activités économiques avec la détente des relations avec les États-Unis qui ont été annoncées récemment. Bon, on sait qu'il y a eu vraiment un rapprochement, hein, l'ouverture de d'une ambassade américaine à La Havane. Donc, c'est considérable.
Tout à fait.
Et maintenant, les Américains pourront désormais utiliser leur carte de crédit à Cuba. Et les institutions américaines pourront ouvrir des comptes dans les institutions financières cubaines. C'est étonnant quand même. Alors, un dégel total des relations commerciales entre Washington et La Havane pourrait ouvrir entre 5 et 10 milliards de dollars d'investissement pour les entreprises américaines à Cuba. Donc, quand on sait que c'est assez précaire ce qui se passe à Cuba actuellement. Oui. Moi, je dois vous avouer, un petit commentaire, que je n'y croyais pas vraiment à cette ouverture. Et je trouve que ça va plus rapidement que prévu. Alors, je crois que c'est pour le mieux. Oui, et sur cette note touristique, ben, je crois qu'on arrive à la fin de notre émission. Alors, j'espère que vous avez apprécié nos sujets qui, on essaie à chaque semaine d'être le plus varié possible.
On essaie, on le souhaite.
Alors, on remercie à la technique Mathieu Tessier, qui est toujours présent, qui nous seconde admirablement.
Fidèle
à chaque semaine.
Mathieu.
Pour les choix musicaux cette semaine, ben, c'était Yvan. Mm-hmm. On a une alternance entre Yvan et aussi
et
Mathieu.
Oui.
Ah, c'était tout à l'heure, c'était Damien Robitaille qui était pour le... Oui, j'ai dit Antoine Graton, petite erreur, on corrige. Ben, et donnez-nous des commentaires, écrivez-nous, dites-nous ce que vous aimez. Vous avez, ben, canalm.org, hein, c'est simple. Vous avez aussi busevoix.com et canalm, à commercial, busevoix.com. Donc, toutes sortes de sources pour nous rejoindre
de façon,
et nous faire des commentaires. Merci à Marie.
Plaisir. Merci, Michel.
Et à Yvan aussi.
Merci beaucoup.
Alors,
à vous deux.
On vous souhaite une très bonne semaine.
À vous. Bonne semaine.
Bye.